Bienvenue dans mon libre journal des sciences, consacré aujourd'hui, en ce soir de réveillon de Noël, jour très particulier, à une figure de notre réalité créée, une figure mystérieuse et énigmatique que nous allons essayer d'analyser sous divers angles. Je veux parler du langage, le langage dans lequel nous naissons, dans lequel nous grandissons, dans lequel nous mourons, sans lequel nous ne pourrions nous exprimer, penser, le langage qui façonne notre pensée aussi bien que nos actes, et pourtant qui demeure un mystère quotidien, un mystère complexe, un mystère qu'il convient d'aborder, évidemment ce jour l'avènement du Verbe, en quelque sorte, est particulièrement bien choisi, ou m'a paru particulièrement opportun pour aborder cette question du langage, de ses fondements et de son fonctionnement. Dans la seconde partie de cette émission, nous aborderons un aspect très particulier du langage, qui est effectivement le langage en tant qu'instrument poétique, instrument évocatoire, instrument de description de l'indescriptible. Mais dans cette première partie, avant cela, nous aborderons d'autres facettes du langage. Je veux parler notamment de la question de ses pouvoirs de subversion, de ses pouvoirs de suggestion, de ses pouvoirs de conditionnement, de ses pouvoirs de connotation. De ce qu'est la force polémique du langage que nous conclurons pour aujourd'hui, nous verrons dans cette deuxième partie d'émission avec Maxence Caron qu'il y a aussi une face poétique du langage, et que le langage ne sert pas seulement à faire la guerre, mais aussi à évoquer l'indicible. C'est sur cette dualité entre le polémique et le poétique que nous conclurons pour aujourd'hui. Jean-Emmanuel, un grand merci pour cette intervention et ces éclairages. Bien, après cette première partie, nous abordons maintenant un deuxième thème en compagnie de Maxence Caron, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, parce que j'ai eu la chance de l'inviter et de pouvoir bénéficier de ses analyses dans ce libre journal des sciences à plusieurs reprises. Maxence Caron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes lauréat de l'Académie française, vous êtes agrégé de philosophie, docteur ès lettres. Votre œuvre foisonnante et riche tourne autour des sciences, de la philosophie, de la musique aussi et de la poésie. Vous êtes d'ailleurs diplômé en matière musicale dans plusieurs disciplines du Conservatoire National de la Musique, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je me plais à citer donc La pensée catholique de Jean-Sébastien Bach, paru aux éditions Via Romana, recueil Pages, sous-titré Le sens, la musique et les mots, aux éditions Séguier, et puis un ouvrage extrêmement important du point de vue de la compréhension de ce qui fait la vérité dans ses multiples déclinaisons, et donc pour le scientifique une question absolument fondamentale, la question de la vérité et de l'objectivité. Je veux parler de votre somme, on peut l'intituler ainsi, La vérité captive, sous-titré De la philosophie, paru aux éditions du Cerf. Alors, vous avez effectivement produit une œuvre philosophique et de réflexion philosophique de première importance, en tout cas qui ne fait que s'enrichir année après année, notamment dans le cadre de vos fonctions de directeur de collection aux éditions du Cerf. Mais vous menez parallèlement une réflexion très originale, déroutante, enrichissante, passionnante, je dois le dire, sur le langage et sur finalement ce qu'il nous permet de dire, ce qu'il peut-être ne nous permet pas de toucher du doigt ou qu'insuffisamment. Et j'en veux pour preuve votre dernier ouvrage, Le chant du veilleur, paru donc aux éditions Via Romana, tout récemment, donc au mois de novembre 2010, et que l'on peut se procurer pour la somme fort modique de 19 euros. Alors je commencerai immédiatement, cher Maxence, par cette question. Qu'est-ce qui vous a amené vous poser cette question du langage et de la poésie? Qu'avez-vous voulu mettre en avant à travers ce titre, Le chant du veilleur?
Oui, le chant du veilleur n'est plus un traité, ni un essai, ce n'est plus de la philosophie, c'est un poème. Et si l'on regarde regarde exactement ce qui se déroule à la fin de La Vérité Captive. La Vérité Captive, donc...
Dans votre précédent ouvrage, enfin l'un de vos...
L'un des précédents ouvrages, l'un des importants traités de philosophie, donc qui est un gros livre, qui fait 1200 pages à peu près. Ce gros ouvrage s'achève, c'est un système de philosophie, il s'achève par un poème. Un poème qui est en quelque sorte le dessaisissement de l'homme de pensée devant son objet. L'objet devant lequel la pensée se trouve finalement dessaisie est finalement celui auquel revient l'initiative. À partir de ce constat, c'est l'objet qui parle en quelque sorte, du moins l'objet qui parle, c'est l'absolu qui doit parler autant que possible. Ce n'est plus la démarche discursive de la philosophie qui consiste à voir le philosophe s'ébattre et se débattre face à un contenu, ce n'est plus cette démarche-là qui prévaut, c'est beaucoup plus la démarche d'imprégnation qui revient donc à donner l'initiative à l'absolu à travers la subjectivité qui recueille les sonorités. Et de fait, il ne s'agit plus de philosopher, de penser en régime d'extériorité, enfin, ou du moins en essayant de gommer cette extériorité native de la philosophie par rapport à son objet. Il s'agit maintenant de laisser vibrer chacune des facultés humaines, la pensée, l'imagination, la sonorité, les oreilles, je dirais, l'entente intime, à travers un langage qui serait véritablement l'unité, je dirais, la symphonie de toutes les facultés humaines. C'est pour ça que le sous-titre du Chant du Veilleur est intitulé poème symphonique, symphonique au sens étymologique du terme, la symphonia, c'est-à-dire la résonance d'ensemble. Et cette résonance d'ensemble, c'est celle de toutes les facultés unifiées, au sein d'un langage unique, unique, singulier, singulier d'unir précisément toutes les dimensions humaines de la parole, qui s'expriment dans des langages disséminés. Il s'agit de dire maintenant, en une fois, dans la subjectivité humaine, en une fois, le rapport à la vérité. Donc, et non plus en extériorité, mais en régime d'intimité, en régime d'unicité personnelle.
Alors, j'entends bien ce que vous dites dans votre description. Si je comprends bien, ou si l'on peut prendre peut-être en première approche quelques approximations, est-ce que l'on peut dire, vous qui êtes un lecteur et un commentateur attentif de l'œuvre de Hegel, que peut-être La Vérité Captive était davantage la phase du temps objectif de l'esprit, de la question de du fonctionnement de la raison dans sa démarche, dans son appréhension du réel et de ce que l'on appelle l'objectivité ou l'objectivité du réel, alors qu'à l'inverse, ce texte du Chant du Veilleur correspond plus à ce deuxième mouvement qui est celui de la subjectivité, voire peut-être même déjà le temps de l'esprit.
Alors, je ne pratiquerai pas cette distinction entre le subjectif et l'objectif dans ce régime-là. Je dirais simplement que La Vérité Captive a pour tâche de s'acheminer vers un total dessaisissement devant l'absoluité de Dieu. C'est Dieu qui va dicter à la poésie, à la philosophie, la manière dont elle doit penser.
Mais ça, c'est tout de même ce que l'on découvre.
C'est déjà en philosophie.
Au terme de votre ouvrage.
C'est ce qu'on découvre dans l'ouvrage, au début, au terme, de manière entrelacée. Et la conséquence, le philosophe, pour être philosophe pleinement, doit passer à un autre régime de discours. Et ce régime de discours n'est pas celui... ne doit pas changer, il doit s'accomplir. Donc le philosophe, déjà, n'est pas à la base quelqu'un qui doit parler en régime d'extériorité par rapport à la vérité, il doit s'en laisser pénétrer. Mais cette imprégnation de la vérité, cette imprégnation de la philosophie par la vérité, n'a pas lieu dans la philosophie habituelle. Dans La Vérité Captive, déjà, la vérité est aux commandes, et il y a un dessaisissement permanent du sujet philosophant par rapport à ce qu'il regarde. Pour accomplir ce mouvement, il fallait laisser, je dirais, la symphonie de la vérité La vérité captive parle en permanence, en reprenant l'expression de Clément d'Alexandrie, de la symphonie trinitaire. Donc il fallait reprendre cette symphonie de la vérité pour la laisser résonner en elle-même, pour faire gagner la musicalité des sphères de cette vérité, de l'invisibilité. Il fallait que cette invisibilité symphonique vienne tordre le langage pour pouvoir désigner ce qui est au-delà du langage et ce qui donne le langage. De fait, les phrases restent lisibles, mais elles résonnent dans un contrepoint, dirait Bach, dans un contrepoint neuf, dans un contrepoint différent. Il y a une nouvelle résonance. Il faut pouvoir désigner par la parole ce qui donne la parole. Alors tout ça, tout ce que je dis paraît peut-être très abstrait, mais dans le concret du texte, ça n'est rien d'autre qu'une reformulation extraordinairement musicale du donné qu'est le langage. Du donné qu'est le langage, il faut entendre cette expression véritablement au pied de la lettre. Le langage est un donné. Le langage nous est donné par le verbe. Et le verbe qui nous donne le langage doit être visible dans le langage tel quel. C'est-à-dire que le langage doit être réinvesti par une musicalité différente. Il doit être arraché, comme dirait Mallarmé, à l'universel reportage. Le langage est utilisé dans la vie de tous les jours comme une monnaie d'échange, nous transmettons des informations. Oui, c'est bien gentil, mais le langage est beaucoup plus que ça. Le langage est une parole, le langage est un verbe, et le langage désigne des réalités. Il doit aussi pouvoir désigner non pas des réalités de tous les jours et quotidiennes, il doit pouvoir, pouvoir désigner la réalité même par laquelle il a été donné, ou par laquelle, enfin, la région même d'où il peut recevoir sa vie. Et cette région même, il ne la désigne que si jamais il revient vers la vibration dont il émane. Et dans ces cas-là, cette vibration, il doit la retrouver en devenant cette musique, en devinant cette musique dont il est.
Alors, je comprends effectivement le sens et peut-être même la finalité de votre propos, et à l'évidence, c'est ce qui est au cœur de votre ouvrage, Le Chant du Veilleur, mais ne déflorons peut-être pas trop vite, si vous le voulez bien, le cœur même de cet ouvrage. Laissons-nous justement conduire peut-être par le langage. Ce qui m'avait particulièrement frappé dans cet ouvrage, donc très important et tout à fait volumineux et imposant, qui était De la vérité captive, c'est qu'à la fois on trouvait déjà à l'évidence cette réflexion sur le langage, sur sa dimension politique, mais aussi sur la manière dont il pouvait être traversé par une inquiétude de l'absolu, mais tout en assumant les différentes figures ou les différentes postures de la raison, et notamment de cette raison scientifique ou de cette raison rationnelle ou peut-être même ratiocinante qui avait traversé l'histoire de la philosophie occidentale. Alors, c'est évidemment l'une des démarches qui était sans doute incontournable, qui apparaissait la plus impressionnante, mais en même temps, on trouvait déjà, je trouve, dans votre propos, des accents pascaliens, c'est-à-dire une capacité à mettre en évidence soit les écueils dans lesquels s'était fourvoyée cette prétendue raison souvent divinisée, soit à l'inverse, les limites ou les insuffisances. Alors, qu'est-ce qui de ce mouvement que vous aviez commencé à ébaucher dans, et plus qu'à ébaucher d'ailleurs, à développer de façon approfondie dans La vérité captive, qu'est-ce qui fait la jointure entre ce premier mouvement et puis cette réflexion que vous allez commencer à initier ou que vous développez précisément dans Le Chant du Veilleur?
Il y a deux choses. D'une part, la philosophie, la pensée en tant que telle, et c'est fourvoyé en Occident, comme l'a montré la vérité captive. Il y a cette grande période d'unité entre la foi et la raison qui court du Christ jusqu'à saint Thomas d'Aquin, en quelque sorte. C'est ce que montre la vérité captive. Et puis, il y a cette rupture après la mort de saint Thomas d'Aquin. Enfin, je ne vais pas raconter.
Cette entrée en crise, c'est Christ successif.
Cette crise avec cette dichotomie artificielle entre la foi et la raison qui ne se réconcilieront plus jamais ou qui ne dialogueront plus jamais pour arriver à notre civilisation du désastre dans laquelle la raison calcule et la foi se réduit à une croyance sans aucun appui, sans rechercher aucun appui dans la pensée. Bon, et bon, ça c'est notre époque. Bon, ça c'est ce que voulait montrer la vérité captive. La vérité captive est le premier volume d'un système qui comprendra 8 volumes, si jamais j'en ai la force. Et, mais Dieu m'en donne la force, car nous sommes 2 dans cette entreprise. Eh bien, la vérité captive, déjà, s'exprimait dans un certain style. Ce n'était pas du style académique, neuneux poussiéreux, qu'on peut allègrement ne pas digérer dans les productions philosophiques contemporaines, qui sont d'un ennui épouvantable et qui ne disent strictement rien, avec un style qui est celui du rien. Bon, elles reflètent leur époque, elles ne le savent pas, c'est leur grande excuse. Maintenant, la vérité captive déployait un style qui était celui du roman au début, un style fourni, baroque, puis passait à l'exposition du système, puis passait à l'histoire de la philosophie contemporaine, puis passait à l'exposition, je dirais, de la nécessité du langage poétique pour déployer un poème en dernier lieu. À partir de là, que faut-il faire ? Eh bien, il faut tout simplement oublier qu'il y a une distinction entre les arts, la pensée, la musique, la peinture, la poésie et l'expression verbale. Il n'y a qu'une seule tête d'homme, il n'y a qu'un seul cœur d'homme, mais il n'y a qu'une seule pensée d'homme. Il n'y a pas à dissocier ces différents domaines sous prétexte qu'il faut faire plaisir à ces soi-disant spécialistes qui ne connaissent d'ailleurs que très mal le domaine dans lequel ils sont engoncés. Non, on peut connaître plusieurs choses et les connaître bien et faire résonner, comme dans une symphonie, chaque instrumentiste sait faire résonner sa partie et le chef d'orchestre sait les faire résonner ensemble. Il faut savoir être le chef d'orchestre de l'âme humaine afin de pouvoir donner un maximum de sens à tout ce que nous avons reçu. La place de la littérature dans cet ensemble. Eh bien, la philosophie s'ouvre par la quête du sens au raisonnement et à la résonance du sens à travers tous les arts, toutes les lettres, toute la pensée au sein d'un unique jaillissement qui est celui de l'activité humaine créatrice. Alors, quand on a traversé le système de la vérité captive, qu'on voit que ce système aboutit à un poème, la moindre des choses, quand on a découvert, au sens étymologique du terme, le lieu de la vérité, c'est de laisser ce lieu investir votre parole, se mettre à son écoute, dans une attitude proche de l'attitude oratoire, et de recevoir, oui, de la contemplation, certes, de la contemplation active, et de recevoir ce qui, de ce lieu, vous revient, et là aussi je parle de manière très étymologique, vous revient, rejaillit vers vous, afin de pouvoir s'exprimer dans votre langage, dans votre singularité d'homme, et reprendre tout ce que vous avez pu dire de manière, de la manière d'un chercheur de vérité, ben maintenant vous allez pouvoir vous exprimer comme celui qui a trouvé la vérité et qui va pouvoir la faire suppurer, je dirais. Vous allez devenir un homme de vérité sudoripare. Mmh. Bon, et cette vérité sudoripare, qu'est-ce que c'est ? C'est une clé de sol, au sens d'un jeu de mots. C'est-à-dire c'est la clé du sol. C'est la clé du sol de la vérité qui va faire rejaillir la musicalité du langage, parce que maintenant le verbe, vous savez qu'il est présent, vous savez d'où il jaillit, et vous savez qu'il est né. Il est né et vous y naissez. Et cette co-naissance dont parle Claudel, cette naissance commune du verbe et de votre cœur au sein de l'amour divin, fait jaillir un langage complètement neuf qui est celui de la poésie telle que je l'entends désormais et qui nous fait sortir de cette littérature, je dirais, de la pauvreté volontaire, de la misère volontaire, du misérabilisme, cette littérature d'après-guerre qui consiste à réduire au minimum le langage, à l'appauvrir. Et alors là, je vise évidemment la poésie contemporaine, comme tout ce qui est contemporain, se gargarise à être le plus insignifiant possible. Alors qu'est-ce que c'est que la poésie?
On retrouve en fait, même si le thème est totalement différent et sans doute le style aussi, on retrouve quelque part ces mêmes ennemis ou ces mêmes figures que vous combattiez déjà dans la vérité captive.
Oui, sauf que là, je n'ai pas d'ennemis.
C'est faux prophètes ou c'est imposteurs.
Je n'ai pas d'ennemis, mais j'essaie de me faire une amie, à savoir la littérature. Ces poètes aujourd'hui, que font-ils ils vont appauvrir le langage. Ils vont appauvrir le langage. Mais comment veut-on avoir de la musique dans les mots si jamais on prive les mots de leur épaisseur, si on prive les mots de leur musicalité, de leur symphonie, de leur résonance? Valérie disait, la poésie, c'est le rapprochement physique entre les mots. On ne rapproche plus les mots, on ne les fait plus vibrer ensemble, ils n'ont plus cette dimension, ils n'ont plus rien. Donc, si jamais on veut faire renaître une littérature et une poésie, il faut sortir de ce que la poésie est depuis 50 ans, à savoir une pauvreté, un minimalisme. Pour ça, il faut la faire renouer avec l'épaisseur musicale et la chair même des mots. Il faut que la poésie redevienne charnelle, dans le sens d'une chair transfigurée par la musique elle-même.
Voilà. Et bien, c'est sur cette invitation à redonner sens et épaisseur au langage, et notamment, et plus spécifiquement même au langage poétique, que nous interromprons momentanément pour cette première partie d'émission. Je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie d'ici quelques minutes après une courte plage musicale. De Radio Courtoisie, bienvenue dans cette seconde partie du Libre Journal des Sciences. Libre Journal des Sciences, donc présenté et animé par votre serviteur David Mascret. En ce soir très particulier, donc du 24 décembre, journée de veille de Noël, de réveillon, vous êtes très certainement tous en famille. J'ai une pensée émue pour ceux qui sont seuls, bien évidemment. Mais je vous souhaite d'avance à tous une très très belle et heureuse fête de Noël. Et nous avons le plaisir, précisément dans ce temps très spécifique et spécial qui est celui de la veillée de Noël, d'être en compagnie de Maxence Caron, philosophe, essayiste, musicien de haut vol, pour parler de son dernier ouvrage précisément qui a pour titre « Le chant du veilleur ». Alors on sait que le 24 décembre est un jour très particulier dans lequel le chant des anges a retenti au plus haut des cieux pour annoncer une nouvelle tout à fait unique sans doute, qui a changé la face de l'histoire humaine. En tout cas, un chant à la mélodie si belle et si pure qu'elle réussit à faire venir auprès d'une petite auberge, d'une petite étable, quelques bergers qui étaient là perdus dans la nature en train de faire paître leurs brebis. Et c'est un peu à ce même cheminement, en suivant l'étoile, que je vous convie aujourd'hui, en compagnie de Maxence Caron, qui va bercer des splendeurs du langage et peut-être nous aider à pénétrer davantage dans ce qui constitue le mystère du langage. Alors, avant directement d'entrer dans le cœur du sujet, vous nous avez donné déjà quelques avant-goûts, Maxence Caron, je voudrais citer la préface que le père Renaud Escande a bien voulu donner à ce texte, dont il a bien voulu vous gratifier, parce que c'est une préface à la fois très courte, mais je crois très éclairante et très laudative. Elle mérite d'être citée. Donc, le père Renaud Escande est avec vous l'un des directeurs de collection des éditions du Cerf. Et donc, à propos de cet ouvrage, Le Chant du Veilleur, paru aux éditions Via Romana, et qui est un poème symphonique, comme vous le sous-titrez et comme vous allez nous l'expliquer. Le père Renaud Escande dit ceci. Le chant du veilleur est l'écho sublime d'une expérience mystique. Tout y chante Dieu, tout y conduit. Là, au creux des mots, mais aussi entre, le verbe exulte. Sur la page court cette clarté si difficilement simple que j'aime chez les pères de l'Église, et puis cette musique partout qui nous porte, nous précède et nous devance. Voilà, je crois que ces quelques mots disent beaucoup de choses du cœur de votre ouvrage. Pardonnez ce terme parce qu'il s'agit bien plus que d'un ouvrage, il s'agit effectivement d'un poème. Mais je crois qu'il méritait d'être cité. Alors, en quoi votre ouvrage est-il un poème et puis surtout peut-être en quoi est-il un poème musical?
Cet extrait de la préface du père Escande est important parce que il insiste précisément sur le terme musical. La musique et la poésie sont inextricablement liées depuis toujours, puisqu'il a toujours fallu que le langage se situe poétiquement dans la musique. Non pas qu'il suffise de mettre une rime à la fin de deux phrases pour qu'il y ait poésie, non pas qu'il suffise de mettre un petit rythme pour qu'il y ait effet poétique, mais en attendant, tous les poètes ont pensé que la musique devait transfigurer le langage qu'ils allaient utiliser. Alors, le mien, de poème, s'intitule symphonique. Vous me direz à ce moment-là que, par rapport à ce que je viens de dire, il y a une sorte de redondance inutile. Pourquoi un poème serait-il symphonique, puisque le poème est déjà toujours musical?
La musique est riche. Le poème pourrait être symplement mélodique, ce qui est déjà beaucoup.
Oui, symphonique dit beaucoup plus. Ou bien encore plus opératique, pour reprendre un terme de Rimbaud. Mais symphonique parce que la symphonie est ce qui va unifier absolument toutes les dimensions de la musique, à la fois la richesse de tous les timbres instrumentaux, également toutes les ambitions cosmiques des compositeurs. Une symphonie de Beethoven, une symphonie de Brahms ont l'ambition de devenir le microcosme sonore du macrocosme mental ou du macrocosme universel que le mental est voué à dont le mental est voué à devenir l'ouverture. Donc ce poème symphonique est musical au suprême degré, dans le sens où le langage lui-même est une musique, dans le sens où il est sonore, il vibre, et où il peut le devenir d'autant plus qu'il acceptera d'être ce qu'il est, savoir cette musique. Pourquoi accepterait-il de devenir encore plus musical qu'il peut l'être naturellement? Pourquoi accepterait-il de devenir un témoignage musical, une partition? Parce que il est beaucoup plus que lui-même. Quand il se regarde lui-même, il se rend compte qu'il se reçoit, que les mots ne sont pas à lui, qu'il les reçoit de ses ancêtres, mais je dirais même qu'il reçoit de toutes les formes intimes, logiques, mathématiques, de toutes les essences, dirait un penseur grec, qu'il recueille au fond de son âme, de son esprit, et que toutes ces essences sont elles-mêmes des harmonies. Bon, pour dire ces harmonies, quoi de plus beau que d'utiliser la vibration musicale. Je devrais dire que l'un des penseurs les plus mathématiques de la Grèce, un philosophe le plus mathématique de la Grèce, celui qui a quand même fait surmonter l'entrée de son académie, du lieu où il enseignait, de cette phrase célèbre que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, un certain Gérard Platon, eh bien, avait quand même fait aboutir sa philosophie dans l'établissement d'une gamme céleste où chaque planète, chaque sphère, etc., était organisée en fonction d'une répartition des notes musicales. Donc,
une harmonie cosmique, les
tons de la gamme grecque de l'époque, qui était, n'était pas évidemment la gamme tonale que le système moderne a mis en œuvre. La gamme de Platon ou des Grecs en général n'est pas la même gamme que celle utilisée par Bach, et encore moins celle utilisée par les dodécaphonistes. Mais bon, cette gamme qui était pentatonique, si je ne m'abuse, eh bien, cette gamme était pour Platon l'expression même de l'harmonie universelle.
L'harmonie des sphères.
Voilà, de l'harmonie des différentes. De l'harmonie astronomique, de la logique des astres, et elle se retrouvait absolument partout. Et le but était un peu. De même qu'il y a un nombre d'or, eh bien, il y avait une gamme d'or. Et cette musique devait être trouvée absolument partout. Alors, on disait que Platon n'aimait pas la poésie. On a une image de Platon n'aimant pas la poésie, etc. Mais si, Platon aime la poésie. Et je rappelle qu'on a trouvé Platon. Le Lise mort de Platon contenait sous son oreiller une pièce de théâtre en vers, donc, bien sûr. Puis à l'époque, le théâtre était évidemment en vers. Et Platon aimait le théâtre, hein, donc la poésie dramatique au plus haut point. Simplement, il aimait une certaine poésie. Et une poésie qui reflète, évidemment, une musicalité, une harmonie telle qu'il l'a définie en fonction de son système des idées. Et son système des idées n'est rien d'autre qu'une manière de comprendre la mesure en fonction d'une forme de rationalité. On pourrait imaginer que Platon est une sorte de poète mystico-philosophique qui aurait pensé d'une façon mille fois supérieure à tout ce que Malherbe aurait pu faire s'il avait réfléchi. C'est un peu l'image que j'ai de Platon, si jamais je le pense comme un poète.
Alors effectivement, je vous remercie de citer cette figure éminemment importante pour l'histoire de la pensée, l'histoire des sciences, en particulier qu'est Platon, parce qu'à l'évidence, il y a là quelque chose de décisif qui se joue dans l'histoire des idées et dans l'histoire de ce rapport extrêmement riche et complexe en même temps entre musique et science, entre le verbe et l'expression du sens. On peut dire que la science grecque naît elle-même en amont de Platon de cette découverte de l'analogie entre cette régularité du rapport qui existe entre les principes aux intervalles de la gamme, notamment cette octave qui correspond au doublement de la fréquence de la vibration, et puis donc tierce, quinte, octave, et de l'autre côté ces mêmes rapports que l'on retrouve à la suite de Pythagore l'harmonie des sphères célestes, dans les combinaisons entre les nombres. Donc tout cela est parfaitement entremêlé, et puis en aval, c'est un des grands héritages de l'école néoplatonicienne après Alexandrie, c'est notamment cette constitution de ce qui a formé le corpus scientifique et de, je dirais, éducatif de plusieurs centaines d'années d'éducation dans les écoles et les universités européennes, ce que l'on a appelé le quadrivium. Le quadrivium, oui. C'est effectivement, pour bien expliquer que nous sommes encore au cœur de la science, ce corpus qui était constitué de quatre disciplines: l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et donc, on voit bien que on apprenait de manière raisonnée les règles de ces quatre disciplines comme une sorte d'unique et même mouvement de cheminement à la fois extérieur pour connaître le monde, mais aussi sans doute le cheminement intérieur.
Mais alors, pour aller un peu plus loin historiquement, je rappellerai que les arts que l'on dénommait libéraux, avant que la Renaissance n'impose la puissance de la peinture et de la sculpture, et avant que le siècle des Lumières n'enregistre la noblesse des arts plastiques, les arts libéraux étaient, par rapport aux arts serviles, les arts libéraux entremêlaient les mathématiques, la grammaire et la musique. Donc, on avait vraiment la métrique grammaticale et la musique des mots étaient totalement entremêlées au sein d'une même capacité du verbe à pouvoir proférer la poésie. La poésie est un art de la diction musicale, de la profération musicale du verbe, mais notamment, comme les arts libéraux sont nés à une époque où la chrétienté était évidemment une évidence, et elle était l'établissement de la vérité au milieu des hommes, les arts libéraux accompagnaient en même temps une ambiance théologique où ces arts libéraux étaient au service d'un idéal de vérité qu'il fallait illustrer. Donc les arts libéraux étaient là pour illustrer la vérité.
C'est toute cette effectivement, à la fois par les sciences et par les arts, d'illustration de cette même et unique vérité. Oui, un peu comme un soleil dont les différents rayons viendraient manifester la splendeur.
Exactement. Et cette unité a été évidemment totalement perdue. Aujourd'hui, il n'existe plus du tout d'unité à ce niveau-là. Déjà, il n'existe plus dans la poésie de sens musical. Le sens musical, alors, on a deux, trois poètes qui se croient poètes parce qu'ils font quelques paronomases. Alors la paronomase, j'explique, pour les auditeurs, ce terme de linguistique, le paronomase, c'est le fait d'entremêler des jeux de sonorité. On va reprendre les consonnes d'un mot, confit, ouais, et puis un mot plus tard on met café, vous voyez. Donc, et là on a fait un jeu de mots extraordinaire, un jeu de son extraordinaire. Ouais.
Donc, qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes?
Alors là, on est dans quelque chose de très fort parce que on a cette, ce qu'on appelle une homéoprotérone déjà, puisque l'homéoprotérone c'est la rime en début de mot, en quelque sorte. Serpent siffle sur, vous voyez. Bon, là, on a un jeu de sonorité très fort, mais la paronomase, c'est, je sais pas, quelqu'un qui va écrire confit au lit, café au lait, vous voyez, ce genre de choses. Il va être très content parce qu'il va, voilà. Et alors ça, il y a tout un courant qui se gargarise. Alors ça peut être très, très réussi, cette paronomase. Il y a des auteurs qui le font excellemment bien. J'en connais. Il y en a d'autres qui vont avoir l'impression d'avoir fait le tour de la sonorité en ayant fait deux trois jeux de mots comme ça et en se congratulant eux-mêmes de l'avoir fait. Bon, eh bien, Nabokov est un auteur qui sera excellent dans la paronomase. J'ai découvert récemment, grâce à un ami, j'ai découvert Nabokov, dont l'écriture anglaise notamment est pleine de ces paronomases, et très très virtuose dans cet art, bien sûr. Mais bon, Nabokov, il sait le faire. Mais le poète aujourd'hui, il va se perdre dans cette espèce de facilité. C'est très facile, si vous voulez, de faire ce genre
de choses. Ça peut devenir aussi un jeu formel, voire un jeu
Un jeu vide. Oui, voilà, ça va être une sorte de pictionary pour les oreilles, si vous voulez. Ouais, on va essayer de dessiner vaguement quelques petits rapprochements afin de faire croire que une petite image peut sortir de deux, trois rapprochements sonores. Bon, et alors en fait, rien ne sort du tout. Et on est simplement content de montrer aux gens qu'on a peut-être une oreille musicale parce qu'on a réussi à se souvenir que dans le dictionnaire, il y avait des mots qui n'étaient pas trop loin les uns des autres. Mmh. Voilà. Alors ça a remplacé absolument toutes les formes de structure du vers.
Mmh. Bon. La virtuosité, en quelque sorte, de la forme ou de cet art de la jonglerie peut masquer le vide du fond.
Oui, exactement. Le terme de jonglerie est très bien trouvé. On jongle, mais il ne faut pas oublier que le mot jongler, au Moyen-Âge, Moyen-Âge, ça voulait dire mentir. Bon, d'ailleurs, chez Villon, dans la ballade pour chanter Notre-Dame, quand Villon fait parler sa propre mère et qu'elle dit « je ne suis point jongleresse », ça veut dire « je ne suis pas une menteuse ». Bon, eh bien, voilà.
On voit bien aussi l'expression contemporaine, jongler avec les chiffres, c'est souvent aussi des truqués. Les crises financières sont aussi des crises dans lesquelles on manifeste l'art du maquillage, du trucage, de la falsification.
La jonglerie par onomastique ne remplacera jamais l'immense structure qui existait dans le vers grec, dans le vers latin, à côté desquels l'alexandrin est une plaisanterie, structurellement. Il faut savoir qu'un vers grec et un vers latin, qu'un hexamètre dactylique en latin est une contrainte horrifiante pour un poète.
Bon, et vous nous dire
alors l'hexamètre, oui. Alors l'hexamètre dactylique. Quand vous êtes dans Virgile, il ne s'agit pas uniquement comme dans l'alexandrin de poser une rime après 12 pieds et de faire une césure à l'hémistiche en évitant qu'il y ait un e muet qui fasse un mauvais jeu sonore. Non, il ne s'agit absolument pas de cela. Il s'agit d'alterner ce qu'on dit des dactyles et des spondées. Alors le dactyle, c'est deux syllabes longues. Dactyle, pardon, c'est une syllabe longue et deux brèves. Le spondé, c'est deux syllabes longues. Et il faut les alterner de telle sorte que l'on tombe véritablement sur une métrique hexamétrique.
Bon, hexamétrique, ça veut dire à base de 6 pieds.
À base de 6 unités millimétriques à l'intérieur. Bon. Et si vous voulez, à chaque fois qu'il y a cette unité, il y a une contrainte, alors que l'unité...
Donc, on retrouve une sorte de jeu presque mathématique, oui, où on est très contraint à la fois par le nombre et l'alternance en quelque sorte.
Extraordinairement contraint, et en plus, il faut que ce soit beau, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des images, il faut que ça résonne, il faut que ce soit musical, etc. Et la contrainte est telle, et elle est tellement efficace qu'il n'y a pas besoin de rime. Bon. Et il y a des poètes qui seront tellement infusés de ces métriques antiques, je pense à Hölderlin notamment, qu'ils n'auront aucun besoin d'avoir recours à la rime. Hölderlin créera des poèmes où il y aura des rimes, mais finalement les grandes hymnes quasi religieuses de Hölderlin à la fin de sa vie, les grandes élégies de Hölderlin n'auront pas de rimes. Ce sont des phrases qui, des vers, pardon, qui se contenteront de poser ce même jeu d'alternance entre les syllabes longues et les syllabes brèves, selon un rythme extrêmement précis. Et de fait, dans ces vers, la rythmique est telle qu'on n'a pas besoin de s'embarrasser de rimes.
On retrouve là, par la bande, en quelque sorte, des grands objet de malentendu pour le grand public autour de la poésie elle-même. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs un peu ce que moquait déjà Molière dans Le Bourgeois Gentilhomme, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait une rime pour qu'on ait poésie. Exactement. Et à l'inverse, on peut avoir des textes extrêmement poétiques, même s'ils sont non rimés. Alors, où se situe la vérité dans cet entre-deux?
La vérité de la poésie, c'est savoir quand est-ce qu'il y a poésie, quand est-ce qu'il n'y a pas poésie. C'est un débat qui est finalement à la fois complexe et simple. La poésie, je reviens à cette phrase de Valéry que je citais tout à l'heure, c'est le rapprochement physique entre les mots. Quand deux mots vont vibrer l'un à côté de l'autre de manière musicale forte au point de produire une image insolite, une image qui surprend, qui étonne et qui produit un effet, là il y a poésie, et pour cela on peut utiliser l'alexandrin. Bien sûr. Mais l'alexandrin n'est pas obligatoire et la rime n'est pas obligatoire. On peut très bien, si vous voulez, faire ce
qu'on appelle. Au service d'une fin.
Oui, l'alexandrin, voilà. Et on peut très bien, si vous voulez, tomber sur des poèmes, par exemple, bon, Victor Hugo, le plus grand poète du 19e siècle, hélas, disait Gide, qui n'est que ce qu'il est, mais qui, de fait, n'a pas tort dans cette phrase. Pourquoi Victor Hugo, dans ses sublimes alexandrins, n'est qu'un faiseur d'alexandrins parfois. Et parfois, au contraire, est très puissant et parfois, est même qualifié par Rimbaud de voyant. Pour Rimbaud, le voyant, c'est le poète au sens le plus fort du terme. Bon, le voyant, c'est celui qui arrive à vraiment voir derrière la réalité la manière dont les choses sont conjointes pour former cette symphonie dont le sous-titre de ce poème que j'ai commis, eh bien, j'essaie de parler. Bon, eh bien, quand Rimbaud dit que Hugo a quelque chose de voyant, quelque chose du voyant plutôt, c'est peut-être, c'est aussi pour souligner qu'il y a quelque chose de voyant, de trop voyant, là, pour le coup. Parce que Hugo, quand il va débiter de l'Alexandrin à raison de 70 tous les matins entre le café et le croissant, ce ne sera pas poétique. Je suis en train de relire en ce moment la Légende des siècles, qui est magnifique.
Oui, pourtant considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Victor Hugo lui-même,
oui,
du point de vue littéraire.
Mais Hugo a écrit énormément de chefs-d'œuvre. Mais reste à savoir où est la poésie quand Hugo va vous décrire, va vous raconter une histoire, bon, en alexandrin. Où est la poésie? Il s'agit uniquement de dire une phrase qui, par ailleurs, serait totalement banale, simplement elle est relevée à la fin par une rime. Bon. Elle est rythmée, certes, mais il n'y a aucune image. Il n'y a absolument rien de surprenant dans la phrase. Simplement, à la fin, il y a une rime qui répond au vers suivant. Et si jamais on disait uniquement l'alexandrin seul, eh bien, en tant que tel, sans la phrase suivante, on ne verrait même pas que c'est un vers. Alors que vous prenez n'importe quelle phrase de Rimbaud, elle est tellement insolite qu'elle résonne comme un vers. Il n'y a même pas besoin de dire la suite. Vous voyez, à moi, l'histoire d'une de mes folies, comme le dit le début d'un des poèmes de la saison en enfer, eh bien, ça suffit. À moi, point, l'histoire d'une de mes folies. C'est insensé, c'est tellement surprenant comme langage.
Non, on est en tout cas qu'on tord quelque part la grammaire en même temps que.
On la tord, et en même temps, on comprend ce qu'il veut dire sans véritablement saisir comment la grammaire veut le dire. Et on est surpris. Bon. Alors que Hugo dépend parfois du vers suivant pour montrer qu'il y avait un vers juste avant le vers qui vient d'apparaître. Alors, Hugo n'est pas toujours dans cette posture, mais il y est souvent. Et les grands passages hugoliens, il y en a beaucoup. Bon. Mais Hugo n'est pas toujours poète, alors qu'on est face à un de ses poèmes, on n'est pas toujours face à l'attitude d'un poète, ni à, finalement, quand il y a marqué poème chez Hugo, on n'est pas forcément en train de lire un poème.
Et ce qui signifie aussi qu'il peut y avoir des facilités poétiques, ce qu'on a longtemps reproché à certains
poètes. Oui, mais c'est justement ce que dit Verlaine. Dans l'art poétique, dans Jadis et Naguère, il y a ce magnifique poème qui commence de manière très célèbre, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, avec un, j'irais presque un calembour sur l'impair, pour cela commet des impairs. Bon. Alors, Verlaine nous dit « préfère prendre un vers impair ». En l'occurrence, dans l'art poétique, le vers contient 9 pieds, non pas 12 comme un alexandrin. Bon, « préfère l'impair », commet des impairs. Bon. Mais ne te laisse pas gagner par les facilités de l'alexandrin triomphant.
Ou enfermé dans des règles tout prédéfinies.
Voilà. Et alors justement, à ce moment-là, il y a « prends la rime ». À un moment donné, je n'ai pas exactement le poème en tête, mais prends la rime et tord-lui son cou. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où. Et on voit Verlaine illustrer dans « Si l'on y veille, elle ira jusqu'où », c'est un langage très familier. Et il montre, par l'exemple, en prenant ce vers « Si l'on y veille, elle ira jusqu'où », un langage très familier avec une rime épouvantable, elle ira jusqu'où. Bon, il montre lui-même par exemple qu'il est en train de faire une très mauvaise rime. Bon, c'est ce qu'on appelle en linguistique un procédé performatif. Bon, eh bien, il est en train d'expliquer, regardez, si je ne fais pas attention, je produis une mauvaise rime, et justement c'est ce que je suis en train de faire. Bon, si l'on y veille, elle ira jusqu'où, prend donc la rime et tord-lui son cou. Bon. Eh bien, c'est exactement cela. La rime ne fait pas la poésie, et il y a à cet égard un magnifique poème d'Apollinaire, sur lequel jamais personne ne dit quoi que ce soit, auquel on n'a jamais pensé. C'est ce vers d'alcool qui s'appelle Chantre. Bon, Chantre, donc. Chantre de quoi? Le chantre d'un nouvel art poétique, pour le coup. Parce que c'est un art poétique, et ce vers, quel est-il? il est un poème à lui tout seul, c'est un vers tout seul, qui est un alexandrin, et qui dit la chose suivante, « Et l'unique cordeau des trompettes marines ». Bon, ce n'est même pas une phrase. «
Chantre et l'unique cordeau des trompettes marines ».
Voilà. Donc le titre « Chantre », le vers « Et l'unique cordeau des trompettes marines », parfait, c'est un alexandrin parfait. Ce n'est même pas une phrase. Et que veut dire ? Qu'est-ce que c'est qu'une trompette marine, déjà ? Une trompette marine, c'est un violoncelle en quelque sorte à une corde. Bon. Donc l'unique cordeau des trompettes marines, qu'avait-il ? C'est tout simplement la corde unique de ce violoncelle à une seule corde. Et comme par hasard, cette espèce de verre isolé au milieu de la page blanche, eh bien c'est cet unique cordeau de la trompette marine. La trompette marine, c'est la page, et la corde, c'est le verre au milieu de cette page. Et Apollinaire...
Donc on a une coïncidence en quelque sorte entre l'effet visuel, presque
oui.
graphique,
ah bah oui.
de la ligne au milieu de cette oui. page, et la signification à laquelle renvoie...
Apollinaire n'est pas le poème des calligrammes pour rien. Hein. Il décide, voilà.
Il décide de dessiner avec
voilà. Donc ce poème nous explique que l'alexandrin, contrairement à Hugo, où souvent un alexandrin n'est alexandrin que parce qu'un autre alexandrin le suit, et ne revue... Enfin, la gloire d'un alexandrin n'apparaît que parce que le suivant lui donne cette gloire. Donc en tant que tel, le vers n'est un vers que parce qu'il y a un vers après lui. Donc en lui-même, il n'a pas d'existence. Il est dépendant du reste. Bon, c'est un procédé comme une autre, mais c'est un procédé comme un autre, mais la question de l'indépendance poétique des mots est posée dangereusement.
Sans mauvais jeu de mots, on pourrait dire qu'on est sur la pente glissante de l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'un verre ça va, trois verres on joue les dégâts, ou qu'un verre on appelle un autre.
Mais voilà, il se trouve que les alcools d'Apollinaire sont bien moins éthylisés que les grands verres d'eau ou les trombes hugoliennes, les cataractes des océans hugoliens. C'est-à-dire que cet unique cordeau des trompettes marines eh bien, montre qu'un alexandrin, tout seul, doit pouvoir raisonner. Seul, avec sa richesse interne, ses échos internes, et on doit pouvoir trouver les sonorités en régime d'intimité dans le vers et sa singularité. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et ce poème est peut-être l'un des plus importants du début du XXe siècle. Et à partir de ce poème, on va comprendre tout ce qui va arriver au XXe siècle en matière de poésie. On va comprendre la révolution surréaliste, on va comprendre que les surréalistes veuillent créer des choses inouïes. Bon, que le but d'un André Breton écrivant des cadavres exquis ou l'écriture automatique triomphe, on va comprendre que son but soit précisément de mettre bout à bout des mots qui n'ont strictement rien à voir pour créer cet effet poétique. Bon, puis après...
La terre est bleue comme une orange,
alors, oui, alors voilà, la terre est bleue comme une orange des Luards. Mais bon, après, bon, ce poème très emblématique du surréalisme, mais qui finalement n'est rien d'autre que la vérité de la poésie telle que la deuxième moitié du 19e siècle l'a établie à travers le poème de Baudelaire, correspondance, très célèbre poème, et puis après à travers Rimbaud, bien sûr, ce revolver à cheveux blancs, en quelque sorte, qui est André Breton, a pondu un poème qui s'appelle L'Union libre, qui associe sa femme, pléthore d'images, ma femme à la chevelure, etc., ma femme aux dents de souris blanches sur la terre blanche, ma femme aux yeux de feu, d'air, etc., enfin, les quatre éléments se résument dans les yeux, etc., bon, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, etc., bon, bon des choses totalement insolites, mais l'effet poétique est remarquable, et on a finalement dans cette irrévérence dans le Breton, une poésie beaucoup plus puissante que les amalgames hugoliens d'alexandrins piétinant les alexandrins tout en voulant les valoriser, etc. Alors, les grandes fresques hugoliennes sont intéressantes, mais sur le plan de l'effet poétique, bon, ça ne vaudra jamais un Valéry qui, en un vers, Jean Point est extrêmement connu, c'est très banal pour que les auditeurs sachent qu'il n'y a pas besoin non plus d'être un homme très sophistiqué pour aimer la poésie, ce vers très célèbre au début du Cimetière marin, « la mer, toujours recommencer », c'est inouï, au sens où on n'a pas entendu, ces mots n'ont pas été entendus, « la mer, toujours recommencer ». Et avec cet effet, on répète deux fois « la mer » pour créer cet effet de recommencement.
Bon, c'est évidemment la figure de la mer qui est la matrice, c'est aussi parce que de la mer vient la vie, que c'est là que se font les éternels recommencements.
Exactement, donc ce thème de du retour, et puis en même temps... les images, justement, c'est là que tout est convoqué, on peut tout dire à partir de ce vers, parce que sa richesse est telle que le rapprochement dans lequel les mots sont enlacés, eh bien, permet à la pensée eh bien, de s'ébattre dans sa propre liberté. Bon. Et l'abîme, le Léviathan qui est la mer, eh bien, permet dans la sonorité de voir son danger conjuré et à la pensée de prendre son essor. Bon, il y a d'autres dans le cimetière marin, un vers très célèbre aussi, dans un tumulte au silence pareil. Bon, alors, la sonorité est sublime, mais également, bon, évidemment, ce paradoxe. Bon, et vous voyez, dans un vers seul comme ça, bon, Hugo fait parfois des choses remarquables. Bon, je m'acharne sur Hugo, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, hein. Mais Hugo a parfois des éclairs splendides comme ça, mais il est un parfait exemple aussi de ce que la rime, ou bien le simple récit sous forme rimée, n'obtiendra jamais, à savoir la poésie, tout simplement. Et alors, il existe évidemment un être qui a recréé la poésie intégralement et qui n'a pas eu de successeur, dans son ambition de totalisation à la fois de la pensée, de la théologie, de la musique, de la peinture, enfin de la symphonie qu'est l'âme humaine, c'est Claudel.
Alors pourquoi Claudel, à vos yeux, est-il une figure décisive de l'histoire de la poésie, peut-être du coup de l'histoire de la pensée ?
Eh bien, Claudel était simplement Claudel a une œuvre déjà où il ne s'est refusé absolument aucun domaine. Aujourd'hui, c'est très mal vu, vous comprenez, et ça, alors, je peux vous le dire dans ma petite expérience, puisque je me fais agresser littéralement, je me fais insulter d'être à la fois poète, musicien, philosophe. Écrivain, prosateur, etc. On n'a pas le droit aujourd'hui de considérer
comme ça. Vous avez des sentiments.
Ah oui, non, vous êtes uniquement votre spécialité universitaire et c'est tout. Et les gens vous dénient le fait d'être. Et même quand vous avez les diplômes bourgs, ils vous le dénient. Donc, et alors on vous agresse, on vous insulte sur Internet, etc. C'est la guerre contre vous parce que vous ne pouvez pas être. L'unité d'homme, vous n'avez pas le droit, vous êtes seulement le philosophe, vous êtes seulement le musicien, vous êtes seulement le mirliton éventuellement, et même pas le poète, enfin, voilà, non, on n'a pas le droit. Tout à coup, une jalousie terrible contre l'humanité que vous portez à travers les différents domaines que vous voulez aimer au sein de ce que vous êtes, à savoir un homme, donc une corde vibratoire qui fait sortir plusieurs notes, la philosophie, la littérature, le roman, la poésie, et cette corde vibratoire est en quelque sorte, on veut la couper chez vous, véritablement, on veut la castrer complètement, c'est extraordinaire, et donc on vous en veut.
Ce qui fait pourtant le cœur même de l'idéal éducatif classique, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition.
Eh bien oui, mais il y a une époque où on pouvait très bien être Descartes, écrire sur la musique, parce que Descartes a écrit sur la musique, écrire de la philosophie, écrire une sorte de roman de formation, parce que le discours de la méthode est un roman de formation, écrire sur tous les domaines. On pouvait être Rousseau, qui a écrit des traités de musique, qui a même écrit des opéras, qui a écrit, etc., qui a écrit des romans, qui a écrit de la philosophie, bon, enfin bref.
Les constitutions.
On pouvait être aussi Leibniz, qui est un mathématicien génial, un philosophe génial, un théologien dans un certain sens génial, etc. On pouvait, mais aujourd'hui, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, aujourd'hui, c'est le siècle du petitisme, on n'a pas le droit, il faut être cloisonné dans son petit domaine pour surtout ne rappeler à personne que l'homme est appelé à recevoir la grandeur. Non pas être la grandeur, mais à recevoir la grandeur. Alors on vous dicte un prométhéisme obligatoire. L'homme est grand, l'homme s'écrit avec un grand H, mais cet homme avec un grand H doit surtout ramper devant l'image qu'il a de lui-même. C'est magnifique. Donc ça s'appelle de la schizophrénie de masse. Bon, enfin, passons, si on va encore dire que Maxence Caron dit du mal de son époque et il n'a pas le droit. Donc, alors, je dis simplement que la poésie, dans Claudel, la poésie, elle est totale, elle est symphonique. Claudel est un homme qui a voulu renouer, déjà, et c'est une grande ambition, avec la poésie grecque, qui est une poésie extraordinairement contraignante. La poésie grecque déchire, comme il le dira dans Les Mémoires improvisées, il dira très clairement, mais également la poésie grecque telle qu'elle a pu s'exprimer chez certains poètes de l'époque patristique. Bon.
Qui pense-t-il, quels sont ces poètes
C'est-à-dire qu'il est très difficile. Poète est un poète pour Claudel signifie tellement de choses. Oui, poyein signifie vraiment. Être, c'est ce qu'il a marqué sur sa tombe, si j'y, il a utilisé le terme semence, si j'y, ce que fut, enfin je ne sais plus exactement, enfin, en tout cas, la semence de Paul Claudel, c'est séminal pour lui, la
semaine,
poésie.
Sémina, c'est ce qu'on retrouve chez Augustin aussi, ce jeu de mots, voilà. La semence qui est en même temps semence de vérité,
et
qui engendre quelque part, qui permet la transmission, l'accroissement, le fruit, le fruit tous.
Exactement. Et donc, évidemment, pour Claudel, la mort de son œuvre était inenvisageable. Lui-même est mort pour une résurrection dans le Saint-Giron du Verbe éternel. Et pour Claudel, le poète, c'est l'homme qui va réunir en lui toute la métrique, toute la musique, toutes les images, toute la vérité, toute la théologie. C'est l'homme qui va pouvoir s'exprimer comme un philosophe, parce que Claudel est un immense penseur. Il va pouvoir s'exprimer comme un exégète. Je rappelle que 30 ans de la vie de Claudel sont consacrés à l'exégèse, les 30 dernières années de sa vie. Il va arrêter le théâtre, il va arrêter la poésie dans le sens très fort qu'il lui a donné pendant sa première partie de vie créatrice. À partir de 1926-28, à peu près, il va se consacrer aux commentaires poético-exégétiques de la Bible, dans des œuvres qu'on ne lit pas beaucoup, parce que nous sommes dans une époque qui ne lit pas beaucoup la Bible. Mais il se trouve que Claudel a fait des exégèses extraordinaires, qui ont été regroupées dans deux volumes, qui s'intitulent Le poète et la Bible, qui sont des merveilles. Et ce poète total, qui est Claudel, est un modèle qui n'a pas été suivi. Il a inventé une manière de vers qu'on a appelé le verset, dans lequel le rythme est très important, mais est impulsé par le contenu. Et le contenu étant abreuvé, s'abreuvant, le contenu s'abreuvant en permanence à la source vivante qu'est le verbe, le rythme en jaillit automatiquement, je dirais. Donc, ce n'est pas. Claudel a vécu la grande période mallarméenne. Il allait dans les salons de Mallarmé. Donc, il a connu le grand esthétisme de la fin du 19e siècle.
Ça, c'est un épisode absolument capital dans l'histoire de la pensée. C'est que d'un côté, on peut le rappeler, donc, cette fin du 19e siècle, on est dans le triomphe de l'industrie, donc du mécanisme, du machinisme. Hein, c'est la deuxième révolution industrielle, la période du pétrole, du gaz, du charbon. On est au niveau des sciences dans une idéologie de plus en plus contraignante et dure qui est l'idéologie du scientisme, hein, l'idée que n'existe et n'est rationalisable que les faits positifs, ce que donnera naissance au positivisme, et donc on évacue totalement la dimension du mystère, de l'inconnu ou du miraculeux. Et puis du coup, on s'aperçoit en littérature qu'on tombe aussi dans une forme d'impasse qui est là, cette impasse du langage qui, chez Mallarmé, va déboucher sur l'hermétisme.
Alors, pour Mallarmé, il va y avoir...
Donc triple crise, en quelque sorte.
Mallarmé va servir de catalyseur, Mallarmé va servir de débouché pour toute une génération de jeunes gens extrêmement frustrés par la fin du 19e siècle et par cette ère de scientisme béat d'imbécilité et de ce matérialisme dont Proust soulignera la vulgarité épouvantable.
Flaubert,
bien avant. Mais alors, le scientisme à la fin du 19e siècle était devenu tellement étouffant, Claudel en parle, etc. Alors, Mallarmé est un homme qui, sans être chrétien, va créer une sorte d'aération générale du langage par ses poèmes extrêmement troublants, certes hermétiques, mais dans lesquels le mystère va reprendre ses droits. Et autour de lui, des jeunes gens qui se retrouvaient donc le mardi rituellement chez lui pour écouter la parole du maître qui, paraît-il, parlait de manière aussi nébuleuse que dans ses poèmes. Et donc c'est des, et alors il y aura à peu près tout le monde. Bon, Claudel va venir à ce moment-là. Il aura vécu sa conversion en 1886, donc il va cacher longtemps à son entourage, à sa famille, à sa sœur, dont il avait une peur bleue. Il va cacher à tout le monde sa conversion. Et dans ce cénacle mallarméen, chez les mardistes, comme on disait, toutes les sensibilités littéraires vont se retrouver. Et je ne dis pas que toutes les grandes conversions littéraires, parce qu'il va y en avoir beaucoup, il y a Peggy, évidemment, un renouveau spirituel extraordinaire. Il y aura les deux grands cénacles, les deux grandes artères de cette spiritualisation. Il y aura Barbey d'Orvilly, qui est le grand catholique, je dirais, mais lui qui a toujours été, en quelque sorte, pas avec la même intensité peut-être, mais enfin, qui a assumé d'être le grand réactionnaire du XIXe siècle, et qui à la fin de sa vie a été récompensé, je ne sais pas s'il cherchait la récompense, enfin, qui a été récompensé par une foule de disciples, et puis Mallarmé qui a porté avec lui, dans une certaine souffrance, le fait que l'époque s'engonçait dans une espèce d'épaisseur matérielle. Bon. Claudel a été, avec Valéry, avec Gide, avec Huysmans, etc., ils ont fréquenté Mallarmé de très près, mais Claudel, lui, n'est pas tombé, comme Gide par exemple, ou Valéry dans une certaine mesure, dans l'esthétisme. Claudel va se sortir du cénacle mallarméen de manière... comme s'il n'y avait presque jamais été. La seule chose qu'on peut retenir chez Claudel qui soit véritablement mallarméenne, c'est par exemple le fait que son théâtre, on puisse se demander parfois, notamment avec Le Soulier de Satin, s'il a vraiment été écrit pour la scène. Quand on a une pièce qui dure 12 heures, on se demande s'il a été écrit pour la scène.
Et dans l'histoire, et les significations cachées, les symboles utilisés sont souvent difficilement décryptables.
Voilà, alors également, la difficulté chez Claudel peut faire penser à Mallarmé, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins difficile à lire que Mallarmé, qui mettait un an pour écrire un sonnet, dont la difficulté est immédiate. Bon, chez Claudel, il y a un sens qui il faut savoir parfois décrypter, mais c'est un langage, je dirais, qui est le langage de l'inspiration, qui n'est pas le langage de l'hermétisme volontaire. Alors pourquoi ? Claudel est alimenté à plusieurs sources. Deux sources, simplement. La première, la plus importante, la grâce, qu'il n'a jamais quittée depuis sa conversion le 25 décembre 1886 à Notre-Dame. Il y a Notre-Dame à côté de la statue de la Sainte Vierge à droite de l'autel. Voilà, une plaque est posée au sol qui rappelle que Claudel s'est converti à l'endroit même de cette plaque. Il y a un très beau texte de Claudel qui s'appelle « Ma conversion » qu'on peut trouver assez facilement et qui relate les circonstances de cette conversion. Mais ce Claudel a également été alimenté au souffle de la métrique grecque et n'a pas trouvé véritablement chaussure à son pied dans la poésie française. C'est ça qui est très curieux. C'est pas quelqu'un qui était un grand lecteur de Baudelaire, de Mallarmé. Non. Alors, il les a lus, il les a aimés, mais le seul grand poète français qu'il a lu et qu'il connaissait par cœur, c'était Rimbaud. Bon, et Rimbaud, c'est une météorite dans le paysage littéraire. Lui aussi, Rimbaud avait lu tout le monde, mais il n'a jamais imité personne. Bon. Ben, de même Claudel. Claudel, en imitant Rimbaud, n'imitait personne, pas même Rimbaud. Bon. Et ce Claudel est un homme qui, aujourd'hui, mérite d'être imité. Et en l'imitant, on n'imitera jamais personne. Alors, moi, si vous voulez, Claudel n'est pour moi pas un modèle à imiter, mais c'est une source d'inspiration dans la façon dont lui-même s'inspirait. Il s'inspirait à la Bible, il s'inspirait à la prière, il s'inspirait... Enfin, c'est un homme qui était infusé de différentes sources qui toutes rendaient libres.
Cette dimension totale aussi peut-être
de l'art. C'est une dimension totale et cette dimension qui consiste à rendre au verbe, avec un grand V, rendre à la deuxième personne de la Trinité, ce qui lui est dû. Bon. Et ce qui lui est dû, c'est la source même de la poésie. La poésie doit montrer la source dont elle émane. Et pour cela, elle doit recueillir au sein des vers la vibration quintessente, la vibration fondamentale qui traverse le langage. De langage, elle doit devenir verbe. Et c'est la raison pour laquelle le langage obtient de la confrontation poétique avec l'essentiel une distorsion qui le rend beaucoup plus sonore. Et c'est ainsi que les mots changent, la musique change.
Alors, une question qui est immédiatement soulevée par votre description, votre analyse de cette question du statut de langage, c'est finalement, dans notre époque qui a tendance à précisément scinder les domaines, à les partager, à établir des sortes de murs de Berlin gigantesques entre les uns et les autres, quel est l'art ou quel est le moyen qui permet le mieux de manifester cette richesse du verbe? Est-ce que c'est la poésie telle que vous venez de la décrire ou est-ce que c'est la musique? Parce qu'une autre grande figure, par exemple, qui va prétendre atteindre à l'absolu à travers l'art, c'est Wagner, à travers l'art total de cet opéra qui, en quelque sorte, en un lieu, en un temps, convoque toute l'histoire, toute la richesse du passé national.
Oui, alors le problème,
trace une fresque qui est en même temps, évidemment, très musicale, très littéraire.
Le problème de Wagner, c'est que c'est un homme sans théologie véridique. C'est un homme qui sombre dans des espèces d'interprétations complètement bizarres de la figure du Christ. C'est un homme qui ne comprend pas qu'être catholique interdit d'être antisémite, donc il se vautre dans des idéologies extrêmement douteuses, il y a des phrases intellectuellement comme humainement sont impardonnables chez Wagner à propos des juifs.
Bon, là encore nous sommes peut-être sur l'aspect...
Wagner est un homme sans théologie, c'est un homme sans absolu.
Mais sur la forme elle-même.
L'absolu de Wagner, c'est Wagner, si vous voulez. Et c'est ça son problème, c'est un homme qui...
Oui, c'est ce que dit Nietzsche dans le cas Wagner.
Ce que dit Nietzsche sur Wagner, malgré l'outrance de Nietzsche, malgré la cruauté de Nietzsche, évidemment, je souscris totalement, c'est la seule chose chez Nietzsche à laquelle je souscris totalement, c'est à ce qu'il dit sur Wagner. Pourtant, j'aime Wagner, certains passages ne m'endorment pas, et il y a des moments de sublime qui sont faits exprès pour toucher votre système nerveux. Nietzsche le dit très bien, d'ailleurs. On ne peut pas rester insensible à certains passages de Tristan et Isolde, à certains passages de Tannhäuser. L'absolu de Wagner, c'est l'opéra wagnérien. Ce n'est pas un art qui promeut un objet extérieur à l'art. Bon, ce n'est pas comme le peintre du Moyen-Âge, ce n'est pas comme Giotto, ce n'est pas comme Frangelico, ce n'est pas un artiste qui va vous dire « Regardez derrière mon art ». Ce dont il est l'illustration et ce dont il reçoit sa grâce, à savoir son objet lui-même. C'est ça qui est très très différent. Wagner tombe dans l'autotélisme artistique, dans l'esthétisme, qui est une des grandes idoles. Il est dans l'esthétolatrie de base, qui est la grande. Mais comme Mallarmé, Mallarmé écrira d'ailleurs un poème qui s'appelle Richard Wagner, un sonnet. Comme tout le monde au XXe siècle, on tombe dans l'autotélisme artistique. Bon. Même Sartre, dans sa première œuvre, La Nausée, établira, avant de devenir le visionnaire politique que tout le monde a su découvrir en lui, eh bien, Sartre a été un homme dont les premières conclusions ont été l'art pour l'art. Bon, à la fin de La Nausée, c'est un salut par l'art. Bon, tout le monde y est passé. Bon, et Wagner a voulu recréer la messe dans Parsifal. Bon, Mallarmé voudra recréer la messe dans le livre. Bon, il n'y parviendra pas, etc. Mais enfin, en tout cas, l'objectif était là. Bon,
le livre. On a des messes de substitution.
Il a écrit les schémas liturgiques pour savoir comment on lirait le livre quand il l'aura écrit. Bon, il l'a jamais écrit, mais bon, il a jamais pu, il a jamais su. Mais on a un schéma dans lequel il dessine une nef, un embon dans lequel on pourra lire telle partie du livre, l'autre le récitant, etc. Enfin,
chasser la théologie par la porte, elle revient par la fenêtre.
Elle revient par la fenêtre, mais enfin...
La
fenêtre, c'est un gentil véluste. Bon, voilà. Restons donc romains. Je préfère la Sainte Messe. En attendant, tous sont passés par cette phase de l'art pour l'art, mais tous, enfin, non. Il y a quelques... les auteurs qui n'ont pas eu cette tentation, et Claudel, bon, peut-être que jeune, cette théorie peut se voir chez lui, peut-être que dans Tête d'or, on peut voir un certain esthétisme. L'esthétique est fondamentale pour exprimer certaines choses, mais l'esthétisme, c'est un degré supplémentaire. L'esthétisme, c'est une idéologie. Bon. Et alors, l'esthétisme, c'est ce en quoi, aujourd'hui, la poésie gambade, en se prenant pour un absolu, pour, voilà, quand vous lisez Bonnefoy, Jacotet, etc., il se gargarise dans une espèce d'onanisme esthétisant dont on ne sort jamais, et en plus, qui n'a même pas de bons résultats. Au moins, bon, je dirais, Mallarmé, c'est beau. Bon, mais aujourd'hui, vous lisez Bonnefoy ou Jacotet, c'est gentil, mais ça n'ira jamais bien loin, ça n'est jamais allé bien loin. Et,
dans une forme de reflet de la pauvreté même de l'époque.
À quoi ressemblent ces espèces de poèmes dont le langage est si pauvre, dont les images sont si... oui, vraiment, enfin, convenues, etc. Et qui prône une sorte, on va reprendre le terme du prix Nobel, de l'Ecclésio, on va reprendre ce terme, d'extase matérielle. Voilà. Donc, qui sont ces gens, cette gente poétiqueuse, vous voyez ? Donc, non, c'est pas possible. Donc, je dis simplement, de même que je disais que la vérité captive, recommençons la pensée, je dis, recommençons la poésie. Et pour recommencer la poésie, eh bien, alimentons-nous à ce que fut l'inspiration des grands poètes. Et ils ne sont pas forcément tous chrétiens. Bon, certes, je suis chrétien, je suis catholique, mais il y a d'autres poètes qui n'étaient pas catholiques, mais qui étaient inspirés par l'objet de la poésie, les surréalistes, par exemple, et qui peuvent aider à trouver dans des images insolites des choses essentielles.
Alors, j'entends bien le propos, mais une nouvelle fois, revenons sur la question du moyen et du genre. Puisque vous êtes à la fois philosophe, vous êtes à la fois écrivain, vous êtes à la fois musicien. Lequel de ces trois genres, si tant est qu'ils se définissent comme tels, vous paraît le plus à même de restituer cette force de la vibration du verbe ? Est-ce que c'est la musique ?
C'est la poésie. C'est la poésie. Qui est le langage fondamental. C'est la poésie, incontestablement. Et c'est elle qui regroupe la totalité des registres.
C'est précisément parce qu'on a le sentiment qu'initialement, poésie et musique étaient fondamentalement liées, et puis qu'à l'inverse, peut-être du fait d'ailleurs d'une sorte de veto imposé par Platon, il y a eu une sorte de crainte de ce pouvoir d'ailleurs réel d'excitation due à la musique qui fait qu'on perd peut-être la dimension contemplative et qu'il faut se méfier d'une certaine dimension.
Il faut faire attention à ce qu'on a dit de Platon sur la poésie. Platon n'est pas en tant que tel contre la poésie. Le Platon de la République est antipoétique, il vise une certaine catégorie de poètes, mais le poète sophiste qui utilise les dimensions uniquement sensitive de l'art pour tromper son monde.
Bon. Mais du trompe-l'œil ou du
trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'à l'époque où la rhétorique est tellement développée en Grèce qu'elle utilise des procédés métriques pour pouvoir s'exprimer, Platon dit, au moment où le sophiste utilise la poésie, Platon dit non, la poésie doit être contrôlée au sens où elle pourrait ne pas dire la vérité. Mais dans d'autres textes, il y a un passage du Sophiste notamment, oui, un passage très important du Sophiste, mais dans les lois également, Platon explique très clairement qu'il y a un art, et qu'il y a une poésie, etc., qui sont dirigés vers l'expression d'absolu. Et cet art n'est pas du tout critiqué. Cet art est emprunt, par exemple, du mystère que porte en soi la mathématique, en recherchant l'harmonie fondamentale du cosmos. Ce mystère pénètre à l'intérieur des vers, pénètre à l'intérieur de la musique, et dans ce cas-là, la poésie n'est pas du tout proscrite. Elle est même au contraire, quand elle regarde vers l'absolu, elle est encouragée. Simplement, Platon refuse que l'absolu ne soit pas au cœur de l'art, tout simplement. Et finalement, quand on regarde l'histoire de l'art, qui sont les poètes dont on a retenu le nom? Tous les poètes qui ont tout simplement mis l'absolu au cœur de leur art. Bon, on ne connaît pas les poètes légers, etc. Bon, bah, ils sont dans quelques anthologies pour montrer ce qu'était la poésie d'un point de vue historique. Mais en tant que tel, les grands poètes sont des poètes qui ont eu maille à partir avec l'absolu, soit pour en souffrir de leur incapacité à véritablement le comprendre, ou à savoir ce que l'absolu aimait de l'homme, ou à savoir que l'absolu aimait l'homme, tout simplement, de manière inconditionnée et inconditionnelle, bon, etc. Maintenant, on ne retient que ceux des poètes et ceux des artistes qui ont eu un rapport avec l'absolu. C'est tout.
Alors, précisément, en tout cas, si on en croit le père Renaud Escande, vous êtes de cela. Je veux bien, après avoir en quelque sorte donné l'avant-goût même de cette introduction politique, peut-être aiguiser les papilles de nos auditeurs sur Radio Courtoisie, eh bien, leur donner maintenant la possibilité de savourer quelques-uns de ces textes. J'en lis juste deux extraits qui, je pense, manifeste bien la musicalité que vous avez essayé de faire ressentir à travers cet ouvrage, donc « Le chant du veilleur » paru aux éditions Via Romana. « Les hommes n'aiment pas la liberté, ni la leur, ni celle d'autrui. Ils veulent être esclaves quelque part et y puiser de quoi dominer ailleurs, aussi misérable que cette domination soit. Là commence cette perte de conscience qu'un vain amour propre inflige à tous ceux qui, en pleine conscience, s'interdisent le bonheur de vivre en enfant d'éternité, la lumière leur faut. » Et ce deuxième passage, qui me semble très fort également, particulièrement évidemment adapté à cette soirée, cette veillée de Noël, « L'ambition du monde n'aura de cesse qu'elle n'ait mise une grande consternation aux cieux, et cette consternation rejaillira sidérale, nous ouvrant la manifestation finale du grand regard divin. Délicieux toi, Seigneur mon Dieu, la vaste et pensive ivresse, te voici, Jésus avec l'esprit, l'état d'aimer en son absolu. Je travaille et m'applique, revêtu très inespérément de mon Christ, à faire vieillir le vieil homme, afin que de la sémination de toute goutte du sang saint rédempteur mûrisse l'homme neuf. » Ce ne sont que deux passages, évidemment, extrêmement lacunaire choisi parmi ce texte extrêmement long et riche, mais je pense qu'à la fois dans leur musicalité, mais aussi et surtout dans leur contenu, donnent bien à entendre et à voir, je l'espère en tout cas pour les auditeurs, la richesse, l'originalité, on peut le dire, de votre phrase, de votre style.
Ce qui est étrange, dirais-je, dans ce poème, c'est qu'il n'est qu'un seul poème et qu'il est très long. Il renoue avec la veine épique, si je puis dire. C'est une épopée intérieure. Le poème, normalement, est court, il est dans un recueil. Bon, et il y a de grands poèmes épiques, mais il n'y en avait plus depuis extrêmement longtemps. J'ai voulu faire une épopée. Évidemment, il ne s'agit pas d'écrire la chanson de Roland ou la Jérusalem délivrée, mais il s'agissait véritablement de rencontrer, à travers un voyage intérieur, toutes les résonances dont l'être intérieur est tissé, et de rencontrer à la fois notre époque, mais également de rencontrer la voix du Verbe au fond du cœur, et afin de pouvoir regarder ce que la perfection du Verbe nous dit ce que l'époque n'est pas, nous dit que l'époque n'est pas, et en même temps de pouvoir rentrer dans cette paix que le Verbe nous donne, que le Christ nous donne, puisque le Christ et le Verbe sont
une seule et même personne,
eh bien, il s'agissait donc de traverser toute cette... voilà, et de faire cette expérience d'épopée intérieure à toute vitesse, presque. Le premier vers a dit « Quelle vitesse s'amoncelle en mon sang !» Et l'afflux d'esprit est considérable. C'est ainsi que commence le poème, et il s'achèvera en disant, je crois, c'est ma mémoire est bonne, il est temps de se remettre à vieillir, et effectivement, à faire vieillir le vieil homme pour retrouver l'homme nouveau, celui dont le Christ, par le baptême, nous permet de nous revêtir, à savoir lui-même. Bon. Donc, c'est vraiment cette expérience de l'épopée qui entrelace à la fois le lyrisme, le mysticisme et la satire, donc les trois tons fondamentaux de la poésie. C'est cette confluence, je dirais, des différentes muses classiques au sein, je dirais, d'une autre muse, la grâce. Celle dont Claudel disait, la muse qui est la grâce dans la quatrième des grandes odes, c'est ça que j'ai voulu rechercher dans cette nouvelle expérience poétique, dont je crois qu'aujourd'hui, et malheureusement, il n'existe pas de doublon. C'est un poème qui, pour le meilleur ou pour le pire, est seul, est dans une solitude complète.
Alors, vous choisissez, donc, vous laissez, à travers votre talent naturel, s'exprimer effectivement ce genre très spécifique, et en même temps, on sent que le propos lui-même est extrêmement fort, extrêmement riche, comme d'ailleurs dans un autre texte peut-être plus satirique par le temps que vous aviez produit il y a quelque temps de cela, qui s'appelait Microcéphalopolis, mais qui dans son registre à lui était également très poétique par certaines de ses images. Votre démarche, lorsqu'on la met en parallèle avec effectivement votre parcours de philosophe et d'érudit, me fait penser à cette phrase d'Alexis Léger, Saint-Jean-Pers, qui, au moment de recevoir son prix Nobel, dans son discours de réception à Stockholm, avait dit « De l'ellipse poétique ou de la démonstration scientifique, qui va plus loin et de plus loin ?» Alors, à quoi vous fait penser ou que vous inspire cette phrase de Saint-Jean-Pers? Qu'est-ce qui, dans l'ellipse poétique, qu'est-ce qui, dans la poésie, peut-être elle-même, permet d'aller au-delà de ce que une certaine démonstration scientifique nous donnerait pourtant le sentiment de toucher du doigt?
C'est-à-dire qu'une démonstration scientifique aujourd'hui relève de ce que Kant aurait appelé le jugement déterminant, c'est-à-dire qu'elle va d'une certaine hauteur, qui n'est pas toujours très haute, vers le bas. Elle va du général vers le particulier. Elle se dirige vers le monde pour pouvoir le contrôler. La démarche poétique, je reprends des termes kantiens, relève du jugement réfléchissant, c'est-à-dire qu'elle projette vers un espace dont nous ne voyons pas les limites et qui renvoie l'homme à l'harmonie de ses propres facultés face au mystère. Donc, quand Saint-Jean-Pers parle de ces deux attitudes humaines...
De mode de connaissance, du reste. Hein. L'ellipse poétique d'un côté...
De mode de connaissance, mais il y a un mode dans la poésie qui est un mode d'inconnaissance, au sens, je dirais, très étymologique du terme, où le « in » de « inconnaissance » est le fait de pénétrer dans la connaissance d'un objet qui nous dépasse, alors que le mode démonstratif, nous soumettons les objets du monde.
C'est une forme d'asservissement, être comme maître.
Ben, c'est ce que Heidegger appellerait le raisonnement du monde dans la technique. Bon, là, je ne suis pas très original. Je pense avec Heidegger quelque chose que nous connaissons tous assez bien.
Et précisément, Heidegger est à la fois un penseur de la technique et de la science, d'un côté, et en même temps un poète, quelque part, en tout cas un penseur de la poésie.
Mais ce que disait Saint-Jean-Pers par ailleurs, il disait « On m'appelait l'obscur, Et évidemment, il parle de sa poésie qui était légèrement hermétique quand même. On m'appelait l'obscur et j'habitais l'éclat. La lumière vers laquelle la poésie dirige est une lumière qui est obscure aux yeux de ceux qui pensent le monde en termes de démonstration scientifique. La démonstration scientifique, à une époque qui n'est pas celle du XXe siècle, ni du XXIe siècle, qui n'est pas celle de l'asservissement du monde pour la consommation des hommes, la démonstration scientifique était une forme de regard désintéressé pour arriver à la théoria qui était une contemplation. Théoria, c'était contempler au premier abord. Mais la théorie aujourd'hui, qui pense que théorie voulait dire contempler à l'origine? Plus personne. La théorie, c'est devenu un terme presque péjoratif. Quand on veut vous insulter aujourd'hui, on vous traite de théorique.
Oui, bon, c'est la théorie.
Voilà, c'est ça. Et on vous oppose aux pragmatiques, aux pratiques.
Oui, bon, il faut être pragmatique.
La vraie théoria s'apparente à une attitude poétique face au monde. Et j'en veux pour preuve que les premiers penseurs étaient des mathématiciens, certes, et étaient également des poètes. Un homme comme Parménide, donc un pré-socratique, un homme qui a vécu qui est mort à l'époque où Socrate était jeune homme, bon, donc ça nous place au 5e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, à cette époque-là, un Parménide, quand il l'écrivait, il écrivait un poème. Et c'était un homme à la fois de science, au sens où aujourd'hui on pense que les sciences sont les mathématiques, et c'était un homme de science avec un grand S, c'est-à-dire de savoir, au sens du savoir absolu, je dirais, du savoir que la philosophie recherche, le savoir de ce qui est principiel, ou principal, ou premier. Et c'était également un poète, puisque son principal écrit, celui qui nous reste, dont il nous reste des bribes, et dont nous imaginons que c'est son principal écrit, parce que ce ne sont que des fragments, est un poème. C'est un homme entier, c'était un homme pour qui la théoria s'exprimait à la fois de manière scientifique, mais humble, par rapport aux objets qui l'entouraient. Donc, il n'y avait pas de volonté captatrice. Cette théoria s'exprimait également comme une poiesis et comme une sophia, une sagesse. Il y avait un homme entier, et c'est certainement pour cela pour cette dimension que certains Grecs savaient unir, qu'un Claudel, bien que les Grecs fussent païens et que Claudel brilla par son catholicisme, c'est certainement pour cela que Claudel a voulu apprendre des Grecs une leçon fondamentale qui est celle de la gratuité. Une gratuité qui, malgré l'univers d'immanence dans lequel les Grecs ont vécu, initie à l'extraordinaire gratuité, au déferlement de gratuité qui va naître de la transcendance ultime,
de la grâce,
qui va naître de la transcendance ultime, hissant et surgissant de la grâce, telle que la pensée juive de l'Ancien Testament l'a révélée au monde, et telle que le Christ l'a apportée dans sa chair, dans son enseignement, dans son âme, dans son esprit, et telle que le Christ l'a fait souffler sur le monde. Et Claudel est ainsi celui dont il faut apprendre ce que la poésie peut, et dont il ne faut pas imiter, je dirais, la manière, mais dont il faut savoir ce qu'est véritablement le poème. Le poème au sens de production, au sens d'avancée du verbe dans la réalité sonore afin de faire vibrer l'essentiel. C'est lui. Ça sert à rien de recopier Claudel. On va pas recopier Claudel, on va pas faire du Claudel. Mais on peut apprendre de lui la liberté poétique qui fera renaître la poésie à une époque où il n'y en a pas.
Alors je veux bien, Maxence Caron, lire à nouveau avec vous des passages de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Le Chant du Veilleur, paru aux éditions Via Romana. Ce passage nous renvoie bien évidemment à la figure également du poète maudit. Et je pensais à cette figure bien évidemment à travers l'analogie poète-prophète. C'est-à-dire, est-ce que nécessairement le poète est persécuté, incompris de son temps? Je lis ce passage. L'homme chrétien est enfant de roi. Il a l'intelligence des descendants royaux qui naissent instruits et sont plutôt des hommes parfaits que le commun ne sort de l'enfance. Et pourtant, dépositaire du grand rire divin et de l'ineffable joie, il est le seul qui ne rit pas, dont l'air est absorbé de la joie pure, et il est, là, celui dont rit la multitude. Alors est-ce que le poète est nécessairement celui dont rit la multitude, celui qui ne peut pas être compris de son temps, celui qui, comme le prophète, n'est jamais prophète en son pays ?
Ah ben, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, il y a des poètes qui sont au Collège de France. Bon, on ne rit pas d'eux, et ils finissent en pléiade de leur vivant.
C'est ce qui est risible. Alors, est-ce que cela va tenter de faire des chairs de poésie au Collège de France?
C'est risible pas pour la multitude. C'est risible pour ceux qui pensent, véritablement. Mais le poète est celui qui... si en plus il est chrétien, imaginez-vous, mais il perd tout. La poésie est le langage de la gratuité. C'est le langage qui aujourd'hui, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien, est le moins lu. Si vous allez voir un éditeur et que vous lui dites « j'ai un poème à vous proposer », il vous claque la porte au nez. Bon, heureusement qu'il y a...
de poursuite judiciaire, sous prétexte que vous risquez de couler sa boîte.
Oui, en plus. Heureusement qu'il y a encore quelques petits éditeurs. Toujours des petits éditeurs. Parce que les gros éditeurs, ils ont déjà piqué depuis longtemps.
Je te remercie, Père Tréhaut, car tu as révélé cela aux petits, aux humbles et aux non-doctes.
Exactement. Et bien, les petits éditeurs, encore, éditent de la poésie. Alors, parfois bonne, parfois mauvaise. Enfin, plus souvent, très mauvaise. Mais, en tout cas... il y a encore des petits éditeurs, voire des moyens éditeurs qui publient de la poésie. Bon, mais être poète chrétien, mais c'est vraiment s'exposer au rire de la multitude qui, d'une part, va vous dire que vous écrivez des choses qui, de toute façon, n'ont aucun intérêt, parce que être catholique, c'est pas très intéressant. Chacun sait que... tout le monde sait depuis Michel Onfray que Dieu n'existe pas. Hein. Bon, donc, d'autre part...
Nous entendons le ricanement, en quelque sorte, des sages et des masses, et
voilà,
des esprits dominants.
Voilà. Donc tout le monde a démontré, enfin, vous voyez... il y a eu Pascal, il y a eu Descartes, il y a eu même Kant qui, au milieu des doutes de la raison pure théorique, a montré l'existence de Dieu par la raison pure pratique. Mais si vous voulez, il y a des gens plus forts qu'eux. Il y a les agnostiques qui passent chez Ruquier. Ça, ceux-là, ils sont quand même beaucoup plus forts que toute l'histoire de la philosophie. Bon, donc, de toute façon, vous êtes chrétien, vous avez tort, ça va de soi. Et vous êtes poète, vous parlez un langage bizarre.
Vous avez doublement tort.
Vous faites partie de ces minorités visibles que la LICRA ne défendra jamais. Bon, donc, c'est... de toute façon, vous êtes objet du rire de ceux qui voudront bien, encore, ne pas vous ignorer totalement. Mais... en tant que chrétien, vous êtes de toute façon l'objet du rire. En tant que poète, ce serait beau. Je dirais qu'il faut réfléchir à cette phrase de Hölderlin qui a fait beaucoup réfléchir à Heidegger en allemand. Wozu dichter in dürftiger Zeit? À quoi bon des poètes en temps de détresse? Parce que le poète est disparaissant en temps de détresse. C'est l'homme qu'on ne voit plus. Alors le chrétien, on le voit parce qu'il énerve complètement. Enfin, c'est un homme qui énerve. Le chrétien, il a raison, tout le monde le sait. Et tout simplement, les gens, ça leur fait mal de se dire que de toute façon, voilà, c'est pas possible. Il faut qu'on invente que le pape a dit des telles choses qu'il n'a jamais dites. Parce qu'il faut que le christianisme ait tort pour que chacun puisse continuer à flatter son petit bout de gras. Bon, ça va de soi. La vérité ne serait pas aussi persécutée si elle n'était pas la vérité. Bon, simplement. Mais le poète, lui, est l'homme parfaitement inutile. On peut l'ignorer complètement, etc. À la rigueur, le meilleur calcul cynique que pourrait faire un poète pour qu'on parle un peu de poésie, ce serait de redevenir chrétien, à la rigueur. Bon, ce serait une bonne chose. Mais le poète lui-même n'est un paria que dans l'ignorance complète où ses œuvres vont le laisser Gésire. Il n'a pas d'existence littéraire. Il est publié sur des très beaux papiers, tirés à 200 exemplaires dans des éditions peu connues et confidentielles. De très, très peu nombreux lecteurs le lisent. Il impose son œuvre au bout de 50 ans à grand renfort de reconnaissance de ses pairs au bout du 10e prix, etc. Bon, c'est une œuvre dont on connaît qu'elle existe, qu'on ne lit jamais, et dont on la trouve vraiment bizarre et tellement inutile. Cette activité, disait Hölderlin, la plus innocente d'entre toutes, bon, et dont il soulignait en même temps le danger. C'est un danger.
Alors en quoi le poète est-il dangereux ?
Parce qu'il est gratuit. Il insulte la chaîne d'utilitarisme dont une société est totalement tissée. Et c'est une sorte de parasite, il faut quand même le dire. C'est un clochard de l'organisation sociale. Alors, il ne dort pas dans la rue quand il a pris soin d'organiser correctement son existence professionnelle et qu'il fait ça par-dessus le marché, mais en tant que tel, sur le plan de son positionnement socio-culturel, c'est un clochard.
Est-ce qu'on peut dire que le poète reprend à sa manière la figure du fou du Moyen-Âge ou de ce pauvre qui, dans les contes de Noël, vient frapper à la porte au dernier moment et dont on s'aperçoit qu'il est finalement le Christ que personne n'attendait?
Et il y a une figure christique, chez le poète véritable, il y a cette figure christique, cette figure de mendiant. Le poète est mendiant, ça ne lui rapporte rien, il ne peut pas s'empêcher d'écrire de la poésie. On ne s'assied pas dans un fauteuil en se disant, tiens, je vais... Alors non pas qu'il ne faille pas travailler, comme disait Valéry, seul le premier vers est un don du ciel. Après, le deuxième, le troisième, etc., il faut le travailler pendant voilà.
Comme mais, pour une symphonie, tu vois.
Bien sûr, mais il y a un rythme au fond de vous qui est absolument incompressible, vous ne pouvez pas l'évacuer, vous avez besoin de le... Bon, voilà. Et puis il y a cette phrase extraordinaire de Beckett qui est très connue, bon, pourquoi êtes-vous écrivain? Beckett répondant... bon qu'à ça, bon, il n'est bon qu'à ça, il ne peut pas faire autrement. Donc la poésie, on en est victime, comme le génie, c'est ce dont on est victime. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qu'on écoute en soi. On en pâtit plus qu'on ne peut s'en vanter. Bon,
ce n'est sûrement pas ce dont on jouit.
Ah, pas du tout, c'est certainement beaucoup plus, pour ceux qui sont géniaux, une tâche de tous les jours, un devoir, une mission, ce qui fait transpirer, qui empêche de dormir, beaucoup plus que quelque chose dont on peut se vanter dans les salons. Le génie et l'intelligence n'ont rien à voir. Le génie suscite une forme d'intelligence involontaire, mais le génie n'est absolument pas du tout quelque chose dont on peut venir hédonistiquement... dont on peut venir se vanter, s'enorgueillir, et dont on peut faire un motif de vanité à un tel moment.
Le génie et le brio peuvent être totalement opposés.
On peut être génie et brillant, on peut être un génie et pas brillant du tout. Il y a des génies éloquents, il y a des génies pas éloquents, il y a des génies. C'est Proust qui montre dans certaines des figures de la recherche du temps perdu que, par exemple, Chateaubriand avait beaucoup déçu, je crois que c'est Madame de Villeparisis qui dit oui, alors Chateaubriand peut-être, enfin, il était pas très bon. C'est pas un bon écrivain parce que sa conversation était ennuyeuse. Bon, voilà. Donc il y a des très grands hommes, parce que Chateaubriand est plus qu'un, non seulement un génie, mais en plus un grand homme. Il y a des très grands bons hommes comme ça qui sont extraordinairement ennuyeux. Il y en a qui sont extraordinairement féconds sur le plan verbal. Il y a des génies dont l'éloquence est connue. Bon, maintenant, le poète lui-même au milieu de tout ça est une figure de pauvreté. C'est un pauvre parce que, déjà, son rapport à l'objet, contrairement à ce qu'un philosophe pourrait faire quand il n'est pas dévoué à la vérité, mais plutôt jeu verbal creux, parce qu'il y a une dimension de la philosophie qui n'est pas forcément, malheureusement l'histoire l'a montré, le dévouement à la vérité. Bon, elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas toujours. Au moins la poésie, quand elle n'est pas non plus uniquement un jeu de langage, la poésie est totalement dévouée à quelque chose qui la dépasse. Elle doit montrer des choses qui la traversent. Alors quand la poésie se met au service même de la vérité, parce qu'elle n'est pas dissociée de cette dimension pensive en l'homme, la poésie, dans ce cas-là, atteint des sommets qui ne peuvent être atteints par aucun autre art. Aucun autre art, parce qu'elle est cette symphonie. Et tout poème véritable est un poème symphonique, en quelque sorte. La densification qu'on obtient dans le langage, qui est à la fois une théologie, une puisqu'il y a un vrai spéculatif, etc. Bon, c'est cette densification est unique, et c'est cette dimension-là qu'il faut savoir aujourd'hui creuser, qu'elle a été totalement perdue dans ce minimalisme où a voulu s'enfermer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais que trop. L'époque contemporaine.
Y a-t-il quelque chose que la poésie ne puisse pas dire ? Et inversement, quelle est la place du silence dans la poésie ?
Eh bien, ce qu'elle ne peut pas dire, elle le reflète par le contrepoint qu'elle assume. L'idéal poétique, pour moi qui suis musicien, je vais vous le dire, c'est d'avoir, au niveau des mots, la morphologie beethovenienne, c'est-à-dire d'avoir des cellules entre les mots et dans les mots, des cellules de sonorité qui soient aussi riches que du Beethoven, et dans la syntaxe des contrepoints qui soient du Bach. Là, on a le style parfait. Et ainsi, vous pourrez montrer cet espace dans lequel la puissance du langage peut se mouvoir, et cet espace, c'est précisément ce qu'on ne peut pas dire, mais ce que l'on peut réfléchir, de même que, je dirais, une eau vive réfléchira la toute-puissante lumière sans pouvoir la capter. Voilà. Et c'est exactement la manière dont l'âme reflète la Trinité sans être la Trinité. Elle en est l'image. Je ne souhaite rien d'autre à la poésie que d'être, à travers ce jeu de syntaxe et de morphologie qui doit tendre vers la perfection, et qui peut aussi bien s'inspirer de la théologie, de la philosophie, quand elle est belle, et de la musique de Beethoven et de Bach, par exemple, eh bien, je souhaite à la poésie de pouvoir réfléchir ce lieu qu'est celui du verbe, ce lieu sans lieu, ce lieu, cette localité divine. Je n'ai pas d'autre terme pour dire la chose. Il faudrait que je l'exprime en vers pour pouvoir le refléter. Eh bien, je ne lui souhaite rien d'autre que d'afficher, de même que l'âme affiche qu'elle est l'image de Dieu, la poésie peut être l'image de l'espace du divin.
Bien, c'est sur cette méditation extrêmement forte en ce soir de Noël, particulièrement propice à cette méditation sur la figure du Verbe, que nous allons nous quitter. Maxence Caron, je ne puis que recommander à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie la lecture, et plus qu'une lecture, une méditation, je crois, approfondie de cet ouvrage extrêmement enrichissant, Le Chant du Veilleur, paru aux éditions Via Romana, pour le prix modique de 19 euros. Vous avez là un grand poème qui se donne comme une œuvre profondément originale, tout en renouant avec l'essence même de la poésie, la musicalité de la langue et son rythme, rendant le texte instinctivement compréhensible, tout en ouvrant ainsi la réalité humaine à ce qui lui parle, tout en lui échappant, c'est le divin. C'est en tout cas, je l'espère, ce que nous avons réussi à montrer dans le cours de cette émission, et surtout, je l'espère, ce dont les auditeurs de Radio Courtoisie se convaincront en s'appropriant eux-mêmes ce texte et en continuant de le méditer. Maxence Caron, pour tous ces éclairages et pour cette intervention, un immense merci.
Merci.